straight, and then go straight.
Entre les pages. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre les pages, l'émission qui parle du monde des livres en Anjou. À quoi ça tient le programme d'une émission? La parution d'une nouveauté, un domaine peu exploré, une actualité brûlante, mais surtout des rencontres. Et l'émission du jour s'inscrit parfaitement dans ces items. La littérature jeunesse fait partie des parents pauvres des thèmes que j'ai abordés. Pourtant, ce ne sont ni les autrices ou les auteurs, ni les illustratrices ou illustrateurs qui font défaut. Mais voilà, je suis soumis au même biais que tout le monde, hors de la littérature pour adultes, point de salut. Alors l'actualité me rappelle à l'ordre, avec la parution du beau livre de Marco Tatz. Je sais, elle est déjà venue dans l'émission, mais c'était il y a longtemps. Et elle se fait toujours discrète. L'autre invitée, c'est le fruit d'une belle rencontre, à un moment très triste, la fin de l'aventure de la librairie Contact pour la majorité des salariés. J'étais venu saluer l'équipe et j'ai échangé avec Myriam Nion. Et j'ai découvert une artiste diablement étonnante. Et quand j'ai vu le travail qu'elle a réalisé autour de l'histoire de Fabrice Collin, je suis tombé sous le charme. Cet Anjou restera comme une grande énigme. Comment se fait-il, après 7 années, que je découvre encore des personnalités et des projets d'une telle qualité? Mais j'en arrête là avec l'autoflagellation et suivez-moi plutôt dans des contrées magnifiques. Vous ne regretterez pas le voyage. Alors, bonjour Margot Tatz.
Bonjour.
Bonjour Myriam Nion. Et commençons par vous, Margot Tatz. Vous êtes illustratrice, vous avez fait vos études aux arts décoratifs de Strasbourg, dont vous êtes diplômée de l'atelier d'illustration, atelier fondé dans les années 70 par Claude Lapointe, et vous vivez au nord d'Angers. Vous n'avez pas eu les pieds dans l'eau pendant les périodes de crue?
Alors moi non, mais ma cave, oui. Mais j'habite vraiment au bord de la Mayenne, donc on l'a vu monter tout doucement, mais elle s'est arrêtée... Juste à la porte de ma maison, donc
ça va. Sauvé par le gong.
C'est ça.
Le grand air vient de paraître aux éditions La Partie. Le grand air, ça parle de quoi?
Le grand air, c'est un imagier sur en fait l'extérieur et ça suit en fait les 4 saisons, mais sans le dire vraiment, à partir de verbes d'action. Et ça joue à la fois sur ces verbes d'action, ce qu'ils peuvent dire du paysage et ce qu'ils peuvent dire de l'exploration de cette petite fille.
C'est un livre qui s'adresse à quel public?
Alors, j'ai toujours du mal à dire à quel public ça s'adresse. Pour moi, ça part de la toute petite enfance. Donc, j'ai eu l'occasion de le lire en crèche à partir de 18 mois. Et ça a fonctionné. Et puis même les plus grands peuvent s'y retrouver parce que ça convoque aussi plein de souvenirs d'enfance. Donc, à tout public.
Un livre, ça n'est comment chez vous?
C'est une maturation très lente.
Ah ben, vu le nombre de livres publiés en 14 ans, oui, c'est très très lent.
Le dernier que j'avais réalisé en tant qu'autrice datait de 2019, c'était Une nuit d'été. Et celui-là, il est né d'une résidence en crèche que j'ai fait pendant 1 an près de Toulouse. Et c'est né de ces observations avec des tout-petits enfants. J'avais très envie de parler des saisons, c'est déjà quelque chose qui est assez récurrent dans mon travail, d'explorer les changements d'un même paysage. Et en regardant les enfants s'approprier tout ce qu'ils avaient autour d'eux, des mouvements, des éléments. Et voilà, c'est né surtout de ces observations-là.
Avec vous, on ne peut pas ne pas parler de la technique. Quelle technique de dessin vous utilisez?
Ici, c'est de la gouache principalement, plus ou moins diluée. Il y a aussi un petit peu d'encre, un petit peu de crayon. Voilà, un mélange de ces trois techniques.
Mmh. Alors, vous êtes édité depuis 2014. Le premier album, c'était La Chasse, il y a 12 ans. Vous utilisez quasiment tout le temps le même médium. Tout le temps la même technique de gouache
Oui, avec plus ou moins... Les premiers livres, j'utilisais un petit peu plus le crayon. Et là, c'est vrai que je me dirige vers des images qui sont presque exclusivement à la gouache. Mmh. Je pense que je ne suis pas une très bonne dessinatrice dans le fond. Du coup, le crayon, c'est un truc qui me paralyse un peu. Et c'est vrai que j'ai tendance à réfléchir les choses par des ambiances et par des formes. Et donc, la peinture, ça me correspond bien sur ça, puisqu'on parle surtout de couleurs. Et la gouache, le fait qu'il puisse y avoir des accidents avec des textures, de l'eau, des aplats, où on voit des fois quelques traces de pinceau. Voilà, c'est une technique que j'aime bien.
Donc, la gouache, de l'eau, enfin une peinture à l'eau, bien sûr. Vous travaillez, quand vous créez vos dessins, c'est sur quel type de papier ? Pour que la couleur tienne, reste.
C'est un papier qui est proche du papier aquarelle, ouais, assez épais.
Mmh. Mmh. A priori, le grand air, c'est un imagier, mais c'est un imagier qui ne décline pas des mots, mais qui décline des verbes. Pourquoi décliner des verbes ?
En vrai, je ne sais pas pourquoi je suis partie sur les verbes. Quand le projet est né, j'ai eu très vite dans la tête cette suite de verbes qui était courir, sauter, tomber. C'était d'ailleurs le premier titre du projet. Et c'est à partir de ces trois verbes que j'ai construit des images et trouvé des analogies entre le paysage et des actions d'un enfant. Et je ne sais pas, j'ai eu ce mot dans la tête, ces verbes dans la tête, mais je ne saurais pas expliquer d'où ça vient.
Parce que classiquement, un imagier, c'est C pour camion, B pour bibliothèque, E pour encyclopédie. Non, on ne met pas une encyclopédie pour apprendre des mots aux enfants. Mais là, vous choisissez donc des verbes, pas n'importe quel verbe non plus, que des verbes du premier groupe. À nouveau, qu'est-ce que suppose, pourquoi des verbes du premier groupe ?
Ça, c'était pour les sonorités. En fait, quand je lisais le livre, j'arrivais pas à m'enlever de la tête cette sonorité de fin qui était le « et ». Et c'est pour ça que j'ai enlevé le premier verbe « courir ». Et je suis restée là-dessus pour une question de rythme, en fait, de pas casser ces sonorités-là. Donc j'étais obsédée par trouver que des verbes du premier groupe. Ouais.
Que des verbes du premier groupe. Alors, qui en plus... Alors, certains reviennent. Taper doit revenir trois fois. Enfin, il y a des mots, donc certains ne reviennent pas, mais il y en a certains qui reviennent plusieurs fois. Et même ceux qui ne sont là qu'une fois, l'image est, j'allais dire ambiguë. Elle ne suggère, enfin, spontanément, elle ne dit pas forcément le verbe qui est dessiné. Est-ce que d'abord vous en avez conscience de ça, de cette expression-là, et vous avez cherché quoi en créant cet espace, puisque finalement ça crée un espace, puisque le verbe, un verbe taper, c'est clair, on tape, mais là le verbe taper, ça peut être, il peut être pris dans plusieurs formes, et des fois il faut même aller chercher le sens du verbe dans l'image, parce qu'on ne le voit pas a priori spontanément. Quelle était votre idée en travaillant sous cette forme-là ?
Pour moi, c'était vraiment le côté ludique, le fait d'avoir cette suite de verbes. Au départ, c'était exactement les mêmes verbes, du coup. Donc, il y a sauter, tomber, taper, souffler, tracer, je ne sais plus, toute une suite.
Oui.
Et c'était les mêmes verbes qui reviennent à chaque fois, sauf que... À l'intérieur de ces saisons, pour pervertir ce système, j'ai eu envie d'avoir à chaque fois un verbe qui n'était pas dans cette suite-là, dans les autres saisons, et qui fasse un peu trébucher, en fait, dans une sorte de mélodie qui pourrait être toujours la même, et tout d'un coup, il y a une petite dissonance, et donc j'ai joué sur ça. Et c'était vraiment hyper ludique pour moi de trouver et les correspondances sur un même verbe, qu'est-ce qu'on pouvait lui faire dire. Par exemple, pour le verbe taper, c'était intéressant de trouver toutes les nuances que pouvait avoir ce verbe, à la fois dans le paysage et dans le personnage. Et donc, c'était vraiment purement ludique, quoi.
Mmh. Alors, déjà, c'est pas que des verbes du premier groupe, hein, puisqu'il y a construire.
Oui.
Donc, jusqu'à preuve du contraire, la grammaire française nous apprend que construire, c'est du troisième groupe, je crois. Bon, il y a une, voilà, voilà, mais c'est le voilà. Mais par exemple, je prends l'image de ramasser. Je prends l'image de ramasser, et on pourrait se dire, ramasser, c'est un imagier, donc c'est un livre qu'un enfant lit, à mon avis, qu'un enfant lit avec ses parents, ou que des parents lisent avec l'enfant, donc il y a une interaction nécessairement. Et si je prends l'image de ramasser, c'est une main, avec au bout de chaque doigt des framboises, alors qu'on pourrait s'attendre que ramasser, ça serait illustré par une image où quelqu'un ramasse des feuilles, par exemple. Et là, le ramasser... entre l'image qu'on voit et le verbe qui est proposé, il y a un écart énorme en réalité, parce que en fait le ramasser qui est écrit là, il devrait être au passé simple, c'est ramasser, alors que là c'est ramasser. Comment vous avez imaginé ça, enfin, parce que moi ce que je vois dans ce travail là, c'est la distance, c'est-à-dire entre on est obligé de mettre des mots en réalité. En fait, vous obligez le lecteur à mettre des mots pour utiliser le verbe.
Je ne sais pas comment expliquer la façon dont j'ai créé tout ça, mais moi, c'est quelque chose que j'aime bien et qui, pour moi, fait le sens de l'illustration, c'est d'avoir ce jeu entre le texte et l'image. L'image ne répète pas ce que dit le texte et inversement, mais l'image est là pour amener un sens supplémentaire à ce mot qui est ici. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est de tourner autour, de jouer sur la temporalité entre ce qui est lu et ce qui est montré, d'avoir un peu comme un langage secret qu'on a l'impression d'arriver à décrypter. Enfin, moi, j'aime bien les livres qui font se sentir un peu intelligent. On a l'impression de comprendre des trucs que personne d'autre n'a compris. Et il y a un peu ce truc-là de raconter des choses par les images qui ne sont pas forcément dites par le texte et d'avoir ce jeu entre les deux.
Et c'est donc pas de redondance en réalité. Mmh. C'est pas la peine de dessiner quelque chose qui est montré, puisque c'est montré, c'est pas la peine de l'expliquer. Il suffit au contraire d'aller de faire le pas de côté, d'aller un peu à côté pour justement fabriquer l'imagination, enfin faire marcher l'imagination, parce qu'on suppose, enfin moi j'imagine la conversation d'un papa ou d'une maman qui lit l'enfant avec son le livre avec son enfant, qui est devant cette image ramassée, il y a des framboises, une main, et on voit toute l'histoire qui commence à naître autour de ça. Tu te souviens, on a ramassé des framboises, ou qu'est-ce que c'est des framboises. Enfin, il y a plein d'histoires possibles. En fait, chaque image développe une histoire. Alors la première fois où nous sommes vus. Vous m'avez repris, alors là j'espère que vous n'allez pas me reprendre, c'est bien une petite fille qui est en scène.
Oui.
Bon, parce que la première fois j'avais cru que c'était une petite fille, mais non, c'était ni une fille ni un garçon, donc là c'est une petite fille qui est en scène, et comme à votre habitude, alors là vous avez dit que vous aviez que le pastel, le crayon, tout ça, ça vous faisait peur parce que voilà, c'était trop contraignant comme dessin, et donc vous réduisez, enfin vous éliminez les contraintes, hein, pas d'indication sur le visage, pas d'yeux, pas rien, hein, pas de nez, pas d'yeux.
Non, rien.
Jamais, hein.
c'est vraiment le profil, c'est presque, oui. Presque de l'image à contre-jour, quoi.
Ouais, de la silhouette.
Mais c'est vrai que j'ai jamais aimé dessiner les visages. En fait, je trouve qu'il y a quelque chose qui fige les expressions, qui me dérange un petit peu dans le fait de plaquer une émotion sur un personnage. Et moi, mes personnages n'ont pas vraiment d'histoire en eux-mêmes. Ils sont vecteurs de l'histoire qui est racontée dans le livre, mais il n'y a jamais de prénom, il n'y a jamais d'indication vraiment trop pour les personnaliser. Et en fait, ça ne m'intéresse pas trop, du coup, de dessiner les visages. Donc, je ne les fais pas.
Alors, dans cet album, il y a la récurrence de quelques verbes. Il y a surtout la récurrence d'une image qui va revenir régulièrement, qui est deux routes qui vont se croiser, un champ, et qu'on va avoir régulièrement. Là, vous faites quoi avec cette image-là, au fur et à mesure de l'album ?
qui m'intéressait, c'était de pas avoir une nature fantasmée, en fait. Dans l'idée de l'exploration, j'avais envie de quelque chose qui colle au quotidien, et le quotidien de la plupart des enfants, c'est d'être près d'un lotissement ou dans des zones pavillonnaires et d'avoir la proximité de cet environnement. Du coup, cette image, elle me permet ça, de ramener à chaque fois l'urbain à l'intérieur d'un livre qui parle pourtant de l'extérieur et du paysage, mais que le rapport, ce soit un rapport vraiment quotidien ou une simple parcelle de champ ou un chemin de terre puisse contenir toute cette histoire, alors que les lotissements sont à quelques pas. Mmh. Et j'avais vraiment envie d'avoir ce rapport à l'urbain qui revient un peu lointain, un peu suggéré, mais qui soit là quand même.
Mmh. Avec cette image déclinée dans la journée et dans les saisons.
Oui.
Donc une double déclinaison, là aussi, parce que ces images, elles ne contiennent pas d'illustration, pas de verbe, hein. Elles sont là, c'est tout, elles sont posées là, donc on se les approprie comme on veut, on peut rester devant et puis les regarder, puis rêvasser en fait, tout simplement. Le dispositif, parce que là on peut parler d'un dispositif, il était à l'origine ou il est né comme ça au fur et à mesure de la construction du livre ?
Non, il était vraiment à l'origine, pensé un peu comme des chapitres, puisqu'on parle de saisons à chaque fois, mais sans les nommer non plus. Et ça, c'était quelque chose qui me tenait à cœur, c'était de parler des saisons, mais sans que ce soit caricatural sur les saisons, et qu'il y ait une idée un peu plus nuancée sur qu'est-ce que le temps qui passe et qu'est-ce que sont les saisons, en fait, quels sont les éléments qui peuvent les représenter. Et donc, les grandes images interviennent plus comme des chapitres pour situer à la fois dans la saison, à la fois dans le moment de la journée et aussi dans le paysage, du coup.
Alors, on va avancer un tout petit peu. Vous n'êtes pas que autrice de livres, vous êtes aussi illustratrice. Et j'ai regardé votre travail sur les 14 ans qui viennent de s'écouler. Avec ça, il y a un truc qui s'appelle Instagram, donc on peut balayer comme ça votre travail. On vous reconnaît du premier coup d'œil. Quand on regarde vos illustrations, on sait que c'est Margot Haas. Que ce soit pour le 1, que ce soit pour la revue 21, on voit une illustration de vous, on sait que c'est vous.
C'est gentil.
C'est pas une question de gentillesse, c'est une observation. Et moi, alors c'est là où je vais être très gentil, vraiment. moi, je vous rapprochais des grands graphistes du XXe siècle. Je pensais à Savignac, je pense à Villemot, je pense à Cassandre, donc des grands noms de l'illustration. Ces noms, quand on voit un dessin de Savignac, il n'y a pas besoin de la signature de Savignac, on sait que c'est Savignac. Et vous êtes presque à mes yeux, vous êtes dans cette famille-là, c'est-à-dire on voit votre travail. On se dit, bah tiens, ça c'est Margot Haas, quoi.
Bah c'est gentil, je sais pas quoi dire, je me sens pas trop au niveau de ces personnes-là encore.
Ah bon?
Mais je sais pas d'où ça vient, une patte graphique, c'est quelque chose qui... Je pense que l'école que j'ai faite à Strasbourg poussait beaucoup à ça. Mmh. C'est-à-dire à trouver, nous, notre propre culture de l'image, nos propres références, et... En fait, on n'avait pas vraiment de cours sur l'illustration, mais par contre, c'était important dans l'école d'arriver à savoir qui on est, où on se situe, quelle est sa famille artistique, etc. Et donc, je pense que ce positionnement, je l'ai questionné assez tôt dans mes études, et c'est ça qui fait que...
Ça reste.
Oui, et puis beaucoup de ceux qui sortent de Strasbourg ont justement cette identité assez forte, je pense, sur le graphisme. Mmh. Mmh.
Je l'ai dit, vous êtes illustratrice, ça veut dire qu'on vous sollicite. Mmh. Comment on choisit un projet ? Comment on décide d'accepter un projet ? Comment on décide d'accepter de faire l'affiche des 24 heures du Mans ?
C'est des
propositions...
Parce
que c'est pas écologique, là. Hein ?
Non, c'est sûr. Mais c'est des propositions qui nous amènent ailleurs. En fait, le luxe de pouvoir être à la fois autrice et à la fois illustratrice, c'est justement, quand on est autrice, j'ai l'impression qu'on a tendance aussi, enfin moi... à s'enfermer sur des sujets un peu qui peuvent être toujours les mêmes et qui créent un chemin. Et l'illustration permet de prendre des chemins un peu parallèles ou des chemins qu'on n'aurait pas pris. C'est-à-dire que quand je travaille pour la presse sur des sujets comme l'agriculture, comme les 24 heures du Mans, comme les Kurdes, c'est des sujets que j'aurais jamais traités de moi-même. Et donc ça questionne aussi le dessin et la façon de représenter. Donc c'est hyper riche après de revenir à son travail avec ses nouveaux questionnements.
Ça vous pose dans vos retranchements ?
Oui, parce que surtout la presse, on travaille très vite. Et du coup, il y a moins les questionnements qu'on peut avoir quand on fait un livre, où on réfléchit vraiment l'image, etc. C'est quelque chose de plus intuitif. Et du coup, même sur les questions de représentation, on n'a pas le temps de se poser des questions de comment on représente un supermarché ou quelque chose, on le fait. Et voilà, ça amène plein de sujets que moi, j'aurais jamais traité de moi-même dans des représentations que j'aurais fait dans mes carnets ou dans des livres.
Eh bien, Margot Tad, je vous remercie. On va faire une première pause musicale.
Et le sol qui m'échappe. Un bon spot, une scène parfaite pour ma dernière chanson. Ton coiffeur en vacances, ta nuque quelques instants. Je vais mettre ce silence de ta peau sur chaque temps. Pour ma dernière chanson.
Pour ma dernière chanson.
Sous les nuages hydrophiles, une planche sur la mer qui tangue de joie fébrile. Quelque chose d'une première pour ma dernière chanson. Pour ma dernière chanson.
Pour ma dernière chanson.
Une baie vitrée, un fauteuil de salon. Mon chat des cafés dans la dernière chanson. Autour de ma maison, du papier, du grand air. Je vais mettre même un crayon si c'est la dernière chanson. Pour ma dernière chanson. Et je reconnais ton écharpe. Je regarde ta veste respirer et le sol qui m'échappe. Un bon spot, une scène parfaite pour ma dernière chanson. Pour ma dernière chanson. Je vais prendre le temps. Encore un début, quelque chose auquel faut dire bienvenue. Si c'est la dernière, je veux mettre un crayon, du papier, du grand air, autour de ma maison, pour ma dernière chanson. Pour ma dernière chanson. Pour ma dernière chanson.
Pour ma dernière chanson.
Pour ma dernière chanson.
Vous venez d'écouter Dernière chanson de Gris Cornac, un titre un peu déroutant, mais les pas de côté, et d'ailleurs on vient de le voir avec Margot, ça fait toujours du bien. Et vous écoutez Entre les pages, et vous avez bien raison, ce n'est évidemment que sur Radio G, fréquence 101.5. De retour dans le studio, nous avons entendu Margot Tatz. Écoutons maintenant Myriam Nion. Je l'ai dit en introduction, nous nous sommes rencontrés tout récemment, au moment où vous décidiez de changer de vie. Vous étiez libraire, vous travailliez à Contact. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Près du micro.
Une opportunité. Un changement de cap pour la librairie. Donc je me suis dit un changement de cap pour moi aussi. 22 ans de librairie, dont 10 à Contact, 10 en librairie jeunesse. Et toujours cette envie d'être dans l'édition jeunesse, mais d'une autre manière.
Remontez un peu le micro près de vous, voilà, pour le mettre à voir plus devant votre bouche. Ouais, merci. Mais pourtant, le dessin, c'est votre formation.
Tout à fait.
Alors ?
Depuis toujours. J'ai commencé à dessiner, j'avais 11 ans. J'ai eu la chance de rencontrer un homme remarquable, Monsieur Trot.
Ah, on parle jamais assez de Monsieur Trot. Je ne sais pas qui c'est.
Et j'ai suivi ses cours le mercredi après-midi.
Où ça ? C'était où ça ?
C'était en région parisienne, dans D'accord. les Yvelines. Mmh. Et dans son atelier, il n'avait qu'une élève, c'était moi. Et il était taiseux. Mais il m'a tout appris. Donc, il me mettait les pommes à l'envers, les verres à l'envers. Il m'a dit, comme ça, tu dessineras ce que tu vois et non pas ce que tu crois savoir. Ah. Et ça a été un homme remarquable. Il m'a dit aussi de pousser mes contrastes.
Faire monter les noirs.
Et du culot, montez noir, montez noir. Je l'ai entendu à chaque séance, montez noir. Pendant un an, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire par montez noir ? J'avais 11 ans. Jamais j'ai osé lui demander. Et finalement, à 12 ans, j'ai osé lui demander. Ça veut dire quoi, monter ses noirs ? Et du culot, montez noir. Donc voilà, j'ai poussé vers le noir charbonneux.
Et vous y excellez, parce que quand on voit vos dessins à la mine de plomb, j'ai en tête le portrait de Sibelius. Là, les noirs, ils sont là, quoi. Enfin, ils sont dingues, vos noirs. Enfin, c'est impressionnant. Moi, je reste scotché par rapport à vos dessins. C'est fou, quoi. C'est fou.
Longtemps, je n'ai dessiné qu'en noir et blanc, en plus. Donc, c'est vrai que contrairement à Margot, c'est la couleur me fait peur. Le noir et blanc m'apaise, me rassure, parce que j'ai l'impression de le maîtriser, de le comprendre, en tout cas.
Ben, alors là, vous faites le pas de côté, mais là, c'est pas un petit pas de côté que vous faites, parce que moi, je vous avais rencontré, j'avais rencontré votre travail, d'ailleurs sans le savoir, c'était pour le livre de Catherine Mallard, Un cheval bleu sur l'horizon, dont vous aviez réalisé les illustrations. Et d'ailleurs, pour ces illustrations, vous aviez retenu une option très magritienne.
Oui, alors, sachant que Magritte et moi, on a une longue histoire qui n'est pas une histoire d'amour, puisque je l'ai eue au bac et que ça m'a un peu traumatisée. Son rocher, je n'ai pas pu l'analyser. Donc... Pour moi, le personnage dans le livre de Catherine Mallard, c'est pas du tout un hommage à Magritte, c'est plus un hommage attardi finalement. Oui, c'était les couvertures de folio, les vieilles couvertures folio illustrées par Tardi, notamment les Kafka.
Effectivement, je me souviens.
Il y avait la couverture du château de Kafka où on voit Monsieur K avec son chapeau, et pour moi, c'était plus Tardi.
Ah, magnifique. Alors, un hommage à Tardi, ça fait toujours du bien de parler de Tardi. De toute façon, ça fait toujours du bien. Donc là, on a parlé noir et blanc, on a parlé Tardi, on a parlé Magritte, on a parlé de votre formation. Et puis, il y a Mes chers amis. Alors, Mes chers amis, c'est un album, pas du tout noir et blanc. Hein. Là, il y a de la couleur et ça éclate. La couleur, elle éclate. Comment s'est faite la rencontre avec l'hyper prolifique et multi-récompensé Fabrice Collin ? Comment ça s'est passé ?
C'est inattendu. En fait, je fais des cartes postales pour les éditions Titi Pinson depuis 13 ans maintenant. Et l'éditrice de chez Gauthier Langros a eu en sa possession un paquet de mes cartes postales. Elle connaît très bien Fabrice Collin. Elle lui a dit, regarde le travail de cette illustratrice. Dis-moi ce que t'en penses. Dis-moi si tu peux écrire une histoire pour Myriam. Et en fait, j'ai pas du tout fait de projet d'album. Moi, en tant que libraire jeunesse, j'ai toujours eu ce désir secret de faire un album pour la jeunesse, sans jamais prendre le temps et en me disant, il y a tellement de belles choses qui se font. Qu'est-ce que j'apporterais de plus à l'édition jeunesse? Et finalement, la rencontre avec Fabrice s'est faite comme ça, sur presque un malentendu juste avant Noël. Un paquet de cartes déposé sur un bureau et ça s'est fait comme ça.
Ça veut dire que Fabrice Collin a écrit une histoire pour vous.
Oui, sur mesure.
Il m'a
appelé en me disant qu'est-ce que tu aimes dessiner, qu'est-ce que tu n'aimes pas dessiner. Alors... Déjà, Fabrice Collin, en tant que libraire, on connaît évidemment son travail. On sait que c'est pas n'importe qui, qu'il est capable de se mettre dans n'importe quel costume. Et moi, le costume, il me semblait bien large pour moi. Donc, je lui ai dit, bah, je ne sais pas dessiner les personnages. En revanche, tu peux y aller sur les animaux et la végétation. Ça, sans maîtriser, j'aime au moins le faire.
Et il vous a fait une histoire, alors, taillée sur mesure, vraiment taillée sur mesure. C'est quoi cette histoire?
Cette histoire, c'est des animaux qui sont dans un zoo, le zoo de Morne-Grisaille. Et un matin, ils trouvent une lettre de leur gardienne qui leur dit « Partez, les cages sont ouvertes, je vous libère, retrouvez-moi chez moi, ma petite maison au fond des bois. » Et on va suivre cet exode, en fait, de ces animaux venus d'ailleurs qui vont traverser une forêt plutôt de chez nous, avec des animaux plutôt de chez nous. Dans un premier temps, il y a les regards des animaux d'ici qui vont être un peu suspicieux, inquiets, qui sont ces animaux étranges qui traversent les bois. Finalement, ils vont se rapprocher, faire connaissance et les guider jusqu'à la maison de la gardienne. On ne verra jamais la gardienne.
Moi, j'aurais tendance à dire jusqu'à la maison.
Jusqu'à la maison, tout à fait.
On verra pourquoi, mais pour moi, c'est jusqu'à la maison, tout en disant, en précisant, parce que ça serait là vous faire affront si on ne le précisait pas, ce ne sont pas des personnages anthropomorphes, hein, ce sont des animaux.
Ce sont des animaux.
Avec tout ce qu'ils ont d'animal, la girafe, c'est une girafe, l'éléphant, c'est un éléphant. Alors, c'est surréaliste, quoi. Cette girafe qui est bien évidemment trop grande pour la page du livre, donc il n'y en a que deux morceaux, mais il n'y a pas la totalité de la girafe à un moment donné. Mais est-ce que... Alors, une rencontre avec un grand auteur, Fabrice Colin, un grand auteur qui décide de vous faire cadeau d'une histoire. Au moment de démarrer, on doit être un petit peu fébrile, non?
Complètement, surtout que c'est un premier album.
Oui.
Donc, je ne connais pas le métier, je ne connais pas la méthode. Comment est-ce que je fais? Ne pas le décevoir. Gauthier Langros, c'est quand même aussi une maison d'édition qui a son poids. Heureusement, je viens avec toute ma culture de libraire jeunesse. Et ça, ça compte parce que je connais les différentes maisons d'édition, un petit peu complètement le circuit du livre. Et mine de rien, ça me permet d'être un peu moins perdue dans cet univers. Mmh. Mais Fabrice Colin m'a téléphoné et tout de suite, il a été généreux, amical, rassurant, en me disant « tu vas y arriver, il n'y a pas de raison, j'ai vu ton travail, je te fais confiance ». De toute façon, il dit « moi, je ne sais pas dessiner ». Donc, je ne jugerai pas ton dessin. Et ça a été formidable de confiance, d'honnêteté entre nous, même si on ne s'est pas vu tout de suite. C'est ça qui est étonnant. On a mis 6 mois avant de se rencontrer physiquement. Il m'a dit, tu sais, j'ai des illustrateurs que je ne vois jamais. Ça n'empêche le travail de se faire correctement et humainement, les liens sont quand même là. Donc, je remercierai jamais assez Fabrice de m'avoir... Fais confiance, parce que pour un premier album, il fallait tenir le délai aussi. 5 mois, c'est très 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 court. Quand on ne connaît pas le métier en plus. Moi, je suis très lente.
J'imagine. Et quand je dis j'imagine, c'est pas, à nouveau, c'est pas vous faire affront. C'est quand on voit les pages de votre album, chez vous, c'est le détail. Alors, Margot Tatz, elle a triché tout de suite, elle fait des aplats, des machins, des trucs, hop, c'est réglé. Alors que vous, c'est le détail. Moi, j'avais regardé vos dessins au crayon, des bois, des sous-bois, mais c'est... pour moi, on est quasiment dans l'hyper-réalisme, quoi. Enfin, vous allez chercher vraiment tout le détail. Et vos images pour ce grand album... C'est un grand album, mais il fourmille de détails. Enfin, donc j'imagine qu'effectivement, ça a été compliqué pour vous. Moi, je vois la première image, les serres, les fleurs, les feuilles. Enfin, c'est impressionnant. Enfin, vous avez dû y passer des heures.
Alors, il y a beaucoup d'heures de travail, certes, mais le détail me rassure parce que je maîtrise le détail. Je le connais, ce détail. Je vais aller chercher... le motif de la feuille, le motif du pivert, le motif...
du pic et pêche.
Du pic et pêche, exactement. Tous ces motifs, je vais aller les chercher en bas de chez moi, dans la nature. Et ça me rassure finalement de faire cette bibliothèque de motifs que je connais. Et certes, c'est du travail, mais c'est un travail que j'organise. C'est presque naturaliste, mais c'est... Je vais connaître la forme de la plume, je vais connaître la fleur. Enfin, je vais la connaître. Je vais savoir la dessiner, en tout cas. Et c'est juste une accumulation de motifs. C'est juste organiser ces motifs. C'est, voilà, c'est peut-être plein, mais c'est rassurant.
C'est rassurant et pas fatigant. C'est-à-dire que quand on regarde vos images, il y a des images qui peuvent être saturées. Et puis, on est épuisé de la regarder parce qu'on est épuisé. Là, j'ai sous les yeux une double page. Là, c'est les, on est du côté des, alors je vais dire des perroquets, hein, parce que c'est le mot que j'ai dans la bouche. Donc, je dis des perroquets.
Oui, des voilà. Perroquets, c'est très bien.
Ah, c'est bien, hein,
oui,
non?
Très, très bien.
Alors, le perroquet, il a une qualité, c'est qu'il a de la couleur. Donc, vous y allez sur la couleur. Là, c'est lumineux, quoi. Et il traverse il traverse un bout de la forêt. On a des fentes qui sont dans le fond, on a des silhouettes de branches, et puis quand on regarde bien les silhouettes de branches, bah tout d'un coup on se rend compte que c'est des écureuils qui sont en train d'être dessinés. Ça fourmille de détails, mais en fait c'est pas du tout fatigant, c'est-à-dire qu'on est sauf les perroquets, c'est une forêt normale, quoi, en fait.
Tout à fait.
Vous représentez une forêt normale.
Tout à fait.
Ouais. Donc pas de vous allez très fort sur les détails. Est-ce que on retrouve donc des animaux exotiques, on a dit, hein, des perroquets, la girafe, le lion. Est-ce qu'il a fallu, quand on dessine comme ça, est-ce qu'on est obligé de faire des exercices de dessin pour maîtriser le corps, la forme, les pattes, la crinière, enfin est-ce qu'il faut faire des exercices?
Il faudrait ça serait bien que j'en fasse un peu plus. Maintenant que j'ai eu le temps, puisque je ne suis plus à la librairie, je vais avoir le temps de faire mes exercices.
Ah, faire des gammes.
Oui, exactement. Bah, c'est ce qu'on a fait tout le long de notre scolarité. Moi, je me suis entraînée à dessiner des pommes à l'envers. Et ben, il faudrait que je m'entraîne à dessiner des pattes de lion maintenant. Et j'ai buté sur quelques animaux. Bah, il a fallu chercher, se documenter. On a un outil formidable qui s'appelle Internet aujourd'hui, donc on a quand même des banques d'images qui nous permettent de regarder comment fonctionne une patte de lion.
Mmh.
Dans quel sens est monté un genou d'éléphant. Et c'est
important, le genou de l'éléphant.
Le genou d'éléphant est important quand il se couche dans un petit lit d'enfant.
Bah
tout
oui,
à fait.
Parce que l'éléphant chez vous se couche dans un lit d'enfant.
Voire même dans un hamac, et c'est drôle d'ailleurs, je suis intervenue dans des classes où les enfants me disaient, mais comment l'éléphant a fait pour monter dans le hamac? Comment la girafe est rentrée dans la maison? Ben, je lui ai dit, tu vois, je vais couper la tête. Et c'est vrai que ces questions, je ne me les étais pas posées. On a des questions d'ordre esthétique, mais pas pratique.
Alors, donc, ces animaux vont cheminer. La gardienne du zoo a été très gentille puisqu'elle a mis des flèches. Donc les animaux n'ont qu'à suivre le parcours. Et on arrive... alors moi j'ai trouvé... hors micro, vous m'avez dit que vous aimiez pas cette page-là. La dernière double page finale où tous nos animaux sont arrivés. Et moi quand je dis... quand vous présentez l'histoire, vous dites dans la maison de la gardienne... Alors, on peut parler, on est entre adultes, hein, donc il n'y a pas de divulgachage possible, c'est pas très grave. Moi, ils arrivent pas dans la maison de la gardienne. Moi, ils arrivent chez moi. Et en fait, c'est pas la gardienne qui les accueille. Elle vient d'où l'idée?
Il y a, au cours du processus du livre, en fait, il s'est passé plein de choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses, des accidents qui se font et qui apparaissent sous nos yeux malgré nous. Par exemple, les saisons défilent. Ça, j'avais pas prévu de faire ça sur les quatre saisons, alors qu'il y a les quatre saisons.
Mmh.
Même Fabrice, pour lui, c'était juste à l'automne, parce qu'il voulait quelque chose de flamboyant. Mais je me suis dit que pour mettre en valeur le flamboyant, il fallait un peu plus de nuances autour. Et la maison, bah finalement, cette maison, c'est un peu ma maison. C'est la maison du lecteur, c'est celle, en tout cas, dans laquelle on a envie d'être, dans laquelle l'enfant aura envie d'être, dans laquelle le pandarou et l'éléphant, après un long chemin, auront envie d'être. C'est pas forcément, en effet, la maison de la gardienne, c'est la maison où on a envie d'être.
Bah, surtout que, on regarde cette page, et les animaux nous regardent. Et ça se termine par un sourire, des bras grands ouverts. Donc, des bras grands ouverts, c'est pas la gardienne à l'époque, bras grands ouverts. Non, c'est des bras grands ouverts. Et nous, on a les bras grands ouverts en tenant l'album. Et on est plongé dans les regards de ces animaux qui nous regardent. Moi, je suis bouleversé. Enfin, quand je vois cette image, je suis bouleversé. Je trouve que elle est folle, cette image. Donc, moi, j'adore. Je trouve que la conclusion, j'avais presque envie. Alors, c'est vrai pour Margot, pour l'album de Margot, mais c'est vrai pour vous aussi. J'avais envie de revenir 35 ans avant, quand j'étais jeune papa, que je lisais des livres à mes enfants. J'avais envie de lire ces livres-là, mes enfants. C'est-à-dire que, parce qu'il y a des choses à dire. Je trouve cet album, magnifique, quoi. Enfin, j'ai pas de mots pour le dire. On vient de le voir, c'était pas votre, ni la couleur, ni raconter une histoire, c'était pas comme ça votre travail à présent. Là, vous êtes, vous avez réalisé un projet qui est quand même assez impressionnant. Pourtant votre travail, c'est le travail sur la nature. Vous dessinez des arbres, des forêts, des feuilles. Alors là, les feuilles, vous en dessinez beaucoup. Ça vient d'où cet attrait pour le dehors, pour l'extérieur, pour la nature?
Ça vient de... J'ai passé beaucoup de temps à regarder par la fenêtre. Mmh. En fait, c'est en étant dedans que j'ai eu envie de dehors. J'ai jamais été privée de dehors, c'est pas ça, mais c'est que j'ai toujours adoré regarder par la fenêtre. Et il se passe des choses incroyables quand on regarde par la fenêtre, et on a juste envie d'élargir cette fenêtre, d'ouvrir cette fenêtre, de voir au-delà de la fenêtre. Et au-delà de la fenêtre, ben, ça va être les arbres à l'extérieur qui vont commencer à bourgeonner en ce moment. Ça va être toute cette nature, finalement, qui est juste derrière la fenêtre.
Et ben, avant de continuer la conversation, on va faire une deuxième pause musicale.
Rock. Skip with
C'était Tilassine, un titre magnifique, Shark Island, une histoire effroyable sur ce territoire de Namibie. Allez voir le clip de la chanson pour comprendre. Vous en sortirez vous aussi bouleversé. Et vous êtes toujours sur Radio G, vous écoutez toujours Entre les pages. Quelle chance vous avez. Et je suis aujourd'hui avec Margot Tatz et Myriam Nion. Nous venons de parler de vos travaux et on a pu se rendre compte que s'il y a du jeune public, il n'y a pas que ça. Mais pour aller plus loin, pour vous connaître un peu mieux, je vous ai demandé de venir chacune avec deux livres. J'aimerais qu'on en parle maintenant. Alors tout d'abord, vous Myriam, votre premier livre, le premier livre que vous avez apporté, c'est quoi ?
Le premier livre, c'est une bande dessinée de François Schuiten et Benoît Peters, La fièvre d'Urbicande. Ça fait des années que je ne l'ai pas ouvert et je me suis dit que pour l'occasion, c'était quand même assez un ouvrage assez marquant dans mon parcours parce que j'ai fait des études d'architecture et c'est grâce ou à cause de François Schuiten que j'ai fait ces études d'architecture. Cet album a été déterminant dans mon choix de parcours. C'était à l'époque où j'étais à Duperret, je savais pas quelle technique faire, quelle matière faire, et en fait l'architecture a été une évidence après la lecture de cet album, donc ça m'a quand même tenu pendant 7 années pour au bout du compte me rendre compte que je n'étais pas du tout faite pour ce métier. Mais ça a été constructif, ça a été créatif, ça a été, j'ai travaillé l'ombre et la lumière, et de ce point de vue, ça a été plutôt bien. Et c'est grâce à cette bande dessinée de la série des Cités Obscures.
Alors là, vous aviez mis la barre un tout petit peu haut, là, hein. Peter Escuyten, oui. C'est pas, voilà, c'est s'il y a des dessinateurs d'architecture, c'est fou, quoi. Enfin, là aussi, on passe des heures et des heures à regarder leurs albums, à regarder les albums. Donc ça, c'est votre premier choix. Moi, je dirais que c'est un excellent choix.
Merci. Je trouve aussi.
Vous, Margot, votre premier choix à vous, c'est quoi?
Mon premier choix, c'est un livre qui s'appelle « L'agriculture comme écriture » de Nina Ferrer-Glaise. C'est en fait la publication de sa thèse. Elle a fait une thèse en histoire de l'art et agriculture. Et ça parle de la ferme de son oncle en Ardèche. C'est le point de départ de toutes ses recherches. Et ensuite, elle questionne la représentation de l'agriculture dans l'histoire de l'art à travers différents tableaux. Différentes représentations. Et ce livre est passionnant. C'est hyper bien écrit. C'est à la fois très intime et à la fois ça parle d'histoire de l'art et de ce qu'on peut y voir et de comment les représentations aussi façonnent le regard qu'on peut avoir sur un métier. Et ouais, c'est un livre qui m'a passionnée. C'est aux éditions Gwynsegal, je ne sais pas comment on dit.
Et il vous apporte quoi dans votre travail, ce livre-là ? Et je ne parle pas au niveau technique, mais au niveau de la réflexion, qu'est-ce qui vous a apporté, ce livre ?
Justement, cette idée de questionner les représentations, des fois, je trouve qu'en illustration, et particulièrement dans l'illustration jeunesse, on peut facilement tomber dans des clichés de représentation. Et justement, de revenir à chaque fois sur qu'est-ce qu'on représente, comment on le représente, sans forcément aller sur des choses trop évidentes. Je pense que ce livre m'a aidée sur ça.
Vous, Myriam, je vous avais donné deux livres chacune, donc votre deuxième livre, votre deuxième choix, c'est quoi ?
C'est un gros livre qui s'appelle « Les ateliers de l'illustration et de la création ». C'est un livre qui est apparu aux éditions Les Fourmis Rouges, donc un éditeur jeunesse, mais c'est un beau livre de photos, de témoignages, de portraits d'illustrateurs et d'illustratrices jeunesse. On y croise François Place, on y croise Anne Brouillard, on y croise Emmanuel Houdard, Benjamin Chaud, que des grands noms et surtout que des personnes inspirantes. Et le travail d'illustration, le travail de création avec tout ce que ça comporte de doutes, de failles, de chutes et de questionnements, ça m'a toujours, j'ai toujours été inspirée par ces personnes-là. Je trouve qu'il n'y a pas plus inspirant que des créateurs finalement.
Dans toute cette, dans ce gros album, gros volume, si vous deviez mettre un nom en avant, le premier nom qui vous viendrait à l'esprit, c'est lequel ?
Anne Brouillard.
Oui.
Ouais.
Pour quel type de travaux ?
Pour toute son œuvre. Ouais. Elle a un travail exceptionnel à la gouache. Elle va sur ses forêts aussi. Elle travaille beaucoup sur ses forêts. Mmh. La représentation des forêts sous la neige à la gouache par Anne Brouillard, c'est d'une poésie incroyable. Elle invente des personnages imaginaires qui vivent dans ces forêts. On est entre le conte, la légende, le travail de naturaliste et en même temps toute la poésie d'Anne Brouillard. Toute la poésie est dans son nom aussi, Anne Brouillard.
Oui, c'est...
C'est très beau comme nom. Mmh. Et ce livre est remarquable parce qu'on est au plus près des illustrateurs dans leurs ateliers. Les photos d'ateliers m'ont toujours fascinée. Tout le petit bazar qu'on peut y avoir, les petits gris-gris. Il y a ceux qui ont un bureau très très bien rangé, ceux qui ont une vue sur leur jardin. Franchement, c'est un album remarquable avec des photos magnifiques, des témoignages magnifique et des portraits magnifiques. Il a été réalisé par Delphine Perret, illustratrice, et aux photos, c'est Éric Garraud.
Rappelez le titre ?
Les ateliers de l'illustration et de la création, aux Fourmis Rouges.
L'excellente maison d'édition des Fourmis Rouges. Et vous, Margot, votre deuxième choix ?
C'est ma Bible.
Ah, une Bible. Alors ?
C'est un livre qui s'appelle La veille du ciel, qui a été publié par les éditions Phénomène Éditions, qui ont publié que ce livre-là pour l'instant. Et en fait, ça regroupe toutes les aquarelles d'André Desgachon, qui était un météorologue et qui a dessiné des ciels toute sa vie, en fait, comme un relevé météo par des aquarelles. Et c'est presque de l'art brut, parce que son sujet n'est pas de faire de belles images, mais c'est vraiment un relevé, et les ciels sont sublimes, et je reviens toujours à ce livre. Je connaissais le travail d'André Desgachon depuis une dizaine d'années. C'est vrai que c'est un nom qui circulait pas mal sur Internet, qu'on essayait de récupérer des images, etc. Et cette maison d'édition a eu la bonne idée de tout regrouper et de tout
publier. Donc c'est un livre assez étonnant parce que il y a effectivement ces aquarelles et puis il y a les graphiques à côté. Enfin, il y a toute une série de graphiques. Enfin, c'est un ouvrage très très technique. Enfin, en tout cas, c'est à première vue, c'est ce qu'on en suppose. C'est étonnant comme livre. En plus, sa construction en tant que livre est étonnante. Enfin, la reliure est apparente. Enfin, c'est vraiment un livre effectivement assez étonnant. J'espère que les maisons d'édition vont résister. Enfin, une maison d'édition qui se lance dans un projet comme ça, j'espère qu'elle va le tenir le cap, parce que là, on arrive à la fin de l'émission. Il nous reste juste quelques minutes, pas beaucoup plus. Myriam. Si vous deviez poser une question à Margot, ce serait laquelle ?
Est-ce que tu ferais du noir et blanc ?
J'en ai fait un petit peu, mais c'est vrai que j'ai du mal avec le noir et blanc. Je pense que c'est le fait de faire des contrastes juste avec deux couleurs. Sachant que je ne suis pas très bonne dessinatrice, c'est vrai que faudrait que j'y revienne. Parce que je sais que ça m'avait permis de débloquer pas mal de choses sur la couleur quand j'avais fait du noir et blanc. Et c'est vrai que j'en fais plus du tout. Et de voir ton travail, ça donne envie de revenir au noir et blanc, c'est vrai. D'expérimenter sur ça.
Mmh. Donc, la couleur te va très bien.
Et bien même, je inverse. Margot, vous poseriez, quelle question vous aimeriez poser à Myriam ?
Si tu aurais envie du coup de renouveler l'expérience de l'illustration jeunesse, de peut-être faire un livre avec tes propres histoires, ou si vraiment tu as envie d'illustrer le texte que des textes de quelqu'un d'autre, c'est le dessin pur qui t'intéresse, parce que je trouve que tes dessins en eux-mêmes sont porteurs d'énormément de narration et presque ce suffirait.
Écoute, je suis en train de travailler sur un deuxième projet d'album écrit avec mon conjoint Donc on a écrit l'histoire et on le dessine à quatre mains.
Oh, trop bien.
Il dessine les personnages et je dessine les décors. J'ai et bien. Ça nous va très bien. Donc c'est agréable aussi de mettre des images sur ces mots et d'avoir sa propre histoire.
Eh ben merci à toutes les deux pour cette visite. C'était un grand plaisir d'avoir échangé avec vous. Mais le gong de la fin d'émission va retentir. Alors avant de vous quitter, quelques informations. On est en ce moment en plein printemps des poètes. Cette année à Angers, c'est du 3 au 27 mars. Semus Daktekin, poète kurde, et Matab Gorbani, autrice et poétesse iranienne, sont les invités de cette édition à Angers. Et en prime, le slameur Malik. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de la mairie d'Angers en tapant simplement « Printemps des poètes ». Et puis le mardi 17 mars à 19h à la librairie Parchemin à Saint-Florent-le-Vieil, rencontre avec Alissa Vence autour de son livre « Le désir dans la cage » consacré à la compositrice Mel Bonis. Et le 21 mars à 15h à la chapelle de Châteaupanne à Montjean-sur-Loire, le groupe de lecteurs Les Hauts-Parleurs proposera le choix de la liberté avec la participation de Philippe Maté, qu'on a déjà reçu ici, bien évidemment. Et ça, c'est aussi dans le cadre du Printemps des Poètes. Au cours de l'émission, vous avez entendu Gris Cornac, qui a chanté Dernière Chanson, et Tilassine, qui a joué Shark Island. Vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à cette émission sur la page de Entre les Pages, sur le site de Radio G, à la date de l'émission. Le prochain rendez-vous, ce sera le mercredi 25 mars à 17h. Dans quelques instants, ce sera le journal de 18h de RFI. Je vous souhaite une excellente soirée. Et maintenant...
In 500 meters, go straight, and then go straight.
Générique.
Just so shy, and even the waker, so old stop, made an effort to wink with one eye.